Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir dans la MC2 pour cette deuxième journée du forum Réinventer la démocratie. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est l'éducation et la recherche. La table ronde est intitulée « Quelle démocratisation du savoir ?» Alors, je vais dire quelques mots d'introduction pour présenter cette table ronde. Je vous présenterai nos quatre intervenants d'aujourd'hui et je leur céderai la parole pour un débat que j'espère aussi constructif que dynamique et vif. Sur ces thèmes, bien sûr, qui sont brûlants aussi bien pour l'actualité de notre démocratie que l'actualité tout court, si je puis dire. Alors, le savoir et la démocratie entretiennent des liens profonds, historiques. En effet, au XIXe siècle, à partir du moment où le suffrage universel donne le pouvoir au peuple, il faut, selon les républicains et d'autres hommes politiques, il faut que le peuple sache, soit sachant, et sache en particulier ce qu'il doit faire et comment utiliser ce pouvoir inédit, si fort, qu'il a désormais entre les mains. Dès lors que le peuple est souverain, il faut que le souverain soit capable d'utiliser à bon escient le pouvoir qui est désormais entre ses mains. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de pédagogues du peuple travaillent à sa formation, de même que sous l'Ancien Régime, des pédagogues comme Fénelon, par exemple, travaillaient à l'éducation du dauphin. Au XIXe siècle, le souverain, c'est le peuple. Et c'est d'ailleurs tout le thème à partir des années 60-70 du XIXe siècle, c'est tout le thème de la démopédie, comment concilier science, suffrage universel et démocratie. Et un certain nombre de républicains sont maris, choqués, de voir comment, sous le Second Empire, le peuple a, selon leurs propres termes, mésusé, mal usé du pouvoir si fort qui était mis entre ses mains, le suffrage universel. Et en effet, sous le Second Empire, le peuple, avec cet instrument de la démocratie moderne, a voté pour ce que les républicains appellent le tyran, Napoléon III. Et à partir justement des années 70, le grand défi, c'est d'apprendre au peuple les valeurs républicaines et la dignité de son pouvoir nouveau. Alors, un siècle plus tard, la démocratisation du savoir se décline sous d'autres thèmes, sous d'autres termes, l'accroissement et la diffusion des connaissances, l'accès du plus grand nombre aux diplômes ou la formation professionnelle. Mais bien sûr, la thématique de la démocratie et du pouvoir populaire reste en filigrane et demeure dans l'esprit de tous. Et c'est pourquoi cette table ronde, éducation et recherche, a sa pleine place dans notre forum Réinventer la démocratie. Bon. Il se trouve aussi qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, un certain nombre de problèmes, dès le XIXe siècle d'ailleurs, un certain nombre de problèmes sont mis en relief, et ces problèmes sont autant d'obstacles sur la voie de la démocratisation du savoir. Je pense par exemple au caractère élitiste de l'école française, du système scolaire français. Je pense à l'importance de l'échec, du taux d'échec dans l'accès aux diplômes, et je pense aussi aux distorsions entre le système éducatif français et le marché du travail. De manière générale, cette table ronde vise à indiquer, à éclairer la place, le statut du savoir, mais aussi de l'école et de la recherche dans la démocratie. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons plusieurs éminents spécialistes de ces questions. À ma gauche, Marie Durubella, qui est sociologue. Elle travaille sur les politiques éducatives et les inégalités sociales dans le système scolaire. Et elle a publié notamment « Les inégalités sociales à l'école, Genèse et mythe » en 2002, ainsi que « L'inflation scolaire, les désillusions de la méritocratie » aux éditions du Seuil avec la République des idées en 2006. À ma gauche, Roger Establet, sociologue, spécialiste des questions d'éducation. Il est professeur émérite à l'Université de Provence et il a publié avec son ami et comparse, si je puis dire, Christian Baudelot, d'un très grand nombre de livres. Le niveau monte, Allez les filles, et plus récemment, aux éditions Le Seuil, La République des idées, L'élitisme républicain, L'école française à l'épreuve des comparaisons internationales. À ma droite, Bertrand Monthubert, professeur de mathématiques à l'Université de Toulouse. Il est ancien président de Sauvons la Recherche et actuellement secrétaire national au Parti Socialiste. Enfin, à ma droite, Éric Morin, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études. Il a notamment publié « L'égalité des possibles » au Seuil La République des idées en 2002, « Le ghetto français » aux mêmes éditions et enfin, plus récemment en 2007, « La nouvelle question scolaire ». Après le débat, nous accueillerons le directeur du CLEPT, Bernard Gerde, qui viendra nous parler de son institution, le collège et lycée élitaire pour tous. Alors, sans plus attendre, je voudrais poser une première question. Alors, c'est une question qui peut apparaître un petit peu technique, mais elle m'apparaît, il me semble qu'elle est très importante. C'est la question des instruments de mesure. En effet, est-il possible d'évaluer l'efficacité du système scolaire français? Peut-on le faire? Comment peut-on le faire? Alors, je voudrais commencer par cette question parce qu'il est important de savoir de quoi on parle. Et il est important, à partir du moment où on s'intéresse aux questions d'égalité, de justice, d'efficacité, il est important de savoir comment les mesurer. Alors, cette première question de l'instrument de mesure, je voudrais donner la parole à Roger Establet. Pouvez-vous, Roger Establet, nous parler des instruments de mesure dont nous disposons à l'échelle nationale, à l'échelle de l'éducation nationale ou à l'échelle internationale?
Oui, les instruments de mesure concernant le système éducatif n'ont pas été faciles à mettre en place. Parce que d'abord, il y a un biais qui intervient, qui est qu'il y a déjà des mesures institutionnelles. Les résultats au baccalauréat, le certificat d'études, des épreuves, qui étaient en général, y compris le certificat d'études, des épreuves sélectives. Ce n'était pas une évaluation de la formation donnée, c'était simplement un moyen de savoir si on était digne d'afficher dans sa salle à manger le certificat d'études ou si on pouvait continuer ses études ayant obtenu le baccalauréat, etc. Ces mesures-là, évidemment, sont des mesures qui concernent l'institution scolaire, qui sont produites par l'institution scolaire elle-même. Ce qui est plus intéressant, c'est de se rapprocher des contenus. Là-dessus, je dois dire que les premières mesures qui m'ont paru tout à fait intéressantes sont des mesures qui sont indépendantes de la volonté de sélectionner. Je pense au travail magnifique fait par Richard et Menga sur le cours préparatoire. On faisait tout simplement passer aux élèves des tests au début de l'année et on faisait des tests concernant la lecture, aussi bons ou aussi mauvais qu'ils puissent être, mais enfin qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, sans aucune prétention ni de jugement sur les maîtres, ni d'évaluation des élèves, on refaisait passer les tests. Et là, Menga, non seulement Menga nous a montré que ces évaluations étaient vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'on voit, elles combattaient des idées tout à fait reçues et très faciles. On voyait en somme qu'il y avait trois sortes de classes dans les CP. Il y avait des maîtres qui maintenaient les écarts entre les élèves, entre le début et la fin, mais qui faisaient monter tout le monde. Bon, c'est pas mal déjà. Il y avait des maîtres, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, et notamment celui qui l'a numéroté, le maître numéro 1, et à mon avis, c'est vraiment le maître numéro 1, le maître qui faisait monter tout le monde, mais qui diminuait les écarts. La droite, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça. Il n'avait pas fait de miracle. Moi, quand j'étais plus jeune, à l'époque où je lisais Menga, j'avais été maoïste, et je pensais que les premiers seront les derniers, croyant à Mao ou à Jésus-Christ, enfin l'un ou l'autre. Mais Menga nous montrait qu'en tout cas, si on n'avait jamais de maître miracle, on n'avait jamais de maître Mao ni de maître Jésus, on avait tout de même des gens qui étaient susceptibles de résoudre les écarts. Et puis il y avait quelque chose de fort passionnant, c'était pour les maîtres qui ne faisaient progresser personne. Et cela, on dit souvent qu'on nivelle par le bas. Eh bien, ce que montrait Menga, c'était le contraire. C'est que les élèves qui faisaient baisser ou qui maintenaient difficilement le niveau général étaient des maîtres qui accroissaient les écarts. Parce qu'avec les mauvais maîtres, il n'y a que les bons élèves qui apprennent. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été très important. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit qu'il fallait évaluer indépendamment de la formation, indépendamment du fait de savoir si les gosses devaient passer. Alors il y a eu tout le travail qu'a fait Claude Thélot en rassemblant des experts de toutes sortes, faisant passer des évaluations en 6e ou CE2, essayant sans succès de les faire passer en seconde à tout le monde, parce que les professeurs s'y sont un peu opposés, et ces évaluations sont très importantes. Et enfin, maintenant, nous disposons d'évaluations qui sont faites au niveau international, du moins pour les pays les plus riches de l'OCDE, ces évaluations qui sont les tests que font passer à 15 ans, depuis 2000, en 2000, 2003 et 2006, les chercheurs du PISA qui essaient d'évaluer les compétences sans avoir le propos de mesurer des connaissances scolaires, mais de savoir quel est le niveau d'utilisation des compétences en mathématiques, en sciences, que sont capables de faire des élèves de 15 ans.
Alors vous avez utilisé le terme de PISA, hein, il s'agit du programme international de suivi des acquis des élèves. Voilà, donc c'est un instrument de mesure au niveau international.
On est habitué, dans la langue de bois que nous utilisons, à dire PISA, à utiliser les abréviations, je m'en excuse.
Alors Marie Durubella, que pensez-vous de ces instruments de mesure? Sont-ils valables?
Une chose est claire, c'est que l'évaluation, c'est jamais évident. Ça pose toujours des problèmes. Ceci dit, il faut la faire. Ça, je suis une partisane. Je pense qu'il n'y a pas de raison. On alloue des fonds publics à l'éducation. Il n'y a pas de raison de mesurer ce qu'en tirent les élèves. Le problème des enquêtes PISA, c'est un, bon, c'est délicat techniquement, mais il y a des gens très balèzes qui le font, donc ça, c'est pas tellement un problème. Ça reste quand même imparfait. C'est-à-dire, on sait bien, par exemple, qu'il y a eu 3 enquêtes PISA, hein, 2000, 2003, 2006. Selon les enquêtes, les données de certains pays sont fragiles et tout. Donc, souvent, il est prudent de lisser les données, de prendre les données, par exemple, des trois enquêtes PISA pour voir ce que ça donne. Mais ça, c'est un peu des problèmes de détail. Il me semble qu'il y a un inconvénient dans les enquêtes PISA, c'est que, d'abord, forcément, on va se polariser sur ce qui est facile à mesurer et à comparer d'un pays à l'autre, donc sur les acquis. Or, il n'y a pas que les acquis, on aura l'occasion d'en reparler à l'école, on ne produit pas que des acquis, on forme aussi des élèves, les attitudes, les curiosités par exemple, et ça ne se mesure pas aussi facilement que les compétences en mathématiques. Donc ça, c'est un premier problème, cette polarisation sur les choses faciles à mesurer. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, ça débouche sur une logique de classement. Or, le classement, pourquoi le classement? Pourquoi le classement? D'abord, tout dépend de l'échantillon. En général, quand on prend les pays riches comme le nôtre, on se tient tous dans un mouchoir de poche. Mais évidemment, on va quand même essayer de tirer les premiers de la classe. Et puis, troisièmement, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que PISA, c'est transversal. On fait à 15 ans, que savent les élèves? Mais ce n'est pas l'efficacité de l'école, évidemment. Peut-être qu'à 15 ans, les petits Finlandais qui regardent des films sous-titrés depuis qu'ils sont tout petits, ils étaient déjà meilleurs en compréhension de l'écrit. Et donc, on ne mesure pas l'efficacité de l'école véritablement, mais quelque chose qui est un mélange avec des médias, de la famille, etc. Donc je pense qu'il est difficile, mais pourtant on le fait tous, parce que c'est très tentant, de tirer de ce palmarès des recettes. Donc je pense que l'interprétation est assez délicate, mais en même temps il faut le faire.
Alors, en 2004 est paru un rapport important, c'est le rapport Agion-Cohen, qui est intitulé « Éducation et croissance » et qui lie, comme son titre l'indique, l'éducation et la croissance en faisant du système éducatif le moteur de la croissance. Je voudrais poser une question à Éric Morin à ce sujet. Je le dis de manière un petit peu schématique. Pensez-vous qu'on peut sortir de la crise actuelle, et je l'entends en termes économiques, par l'éducation et la formation?
Donc là, l'instrument de mesure latent, ce n'est plus les enquêtes PISA, c'est ce que nous livre comme verdict l'économie, le marché du travail. Juste sur les instruments de mesure, il y a quelque chose à laquelle j'aimerais rendre hommage, c'est les travaux qu'ont fait Baudelot et Stablé sur les données issues du service militaire, qui sont quand même des monuments précurseurs qui ont vraiment, à mon sens, donné les éléments les plus probants sur l'efficacité du système éducatif, de la démocratisation, parce que tout le monde les passe, il n'y a pas de sélection liée au niveau auquel c'est passé. Ça a été vraiment des éléments extrêmement utiles, et il faut rendre hommage à ce travail, c'est l'inventivité des chercheurs qui ont été chercher ces données pour éclairer ces questions. Alors sur la question du rôle du lien entre croissance et éducation, c'est une question redoutable, c'est une des questions les plus difficiles qui soient. On a tous en tête, et c'est vrai qu'au sein d'une génération donnée, il n'y a pas trop de débat là-dessus, On a tous intérêt à ce que nos enfants aillent le plus loin possible à l'école, soient le mieux diplômés. Pour ce qui est de la compétition qu'ils livreront avec leurs congénères, ça leur apportera des bénéfices de tous ordres, et en particulier économiques. Là, j'ai regardé avant de venir ici les dernières données dont on dispose pour le chômage, par exemple. Dans les années 2000, là en 2008, le taux de chômage des gens qui sont diplômés du supérieur et qui viennent d'entrer sur le marché du travail reste résiduel, inférieur à 5%. Si vous sortez aujourd'hui sans qualification, votre taux de chômage est au-delà de 40%. C'est pas quelque chose qui s'érode au fil du temps. Si j'ai regardé les toutes dernières enquêtes emploi, si vous prenez entre 2003 et 2008, en général, quand il y a une récession, les premiers à souffrir de ça, c'est les gens les moins qualifiés. Et en dépit du fait qu'ils sont de moins en moins nombreux sur le marché du travail, hein, même encore aujourd'hui, au fil du temps, donc normalement, le gâteau qu'ils ont à se partager, ils sont moins nombreux à se le partager, et bien leur situation, s'il y a une situation qui commence à s'aggraver aujourd'hui, c'est celle des... En 2008, par rapport à 2003, par exemple, c'est celle des gens qui sont peu qualifiés. Ça, c'est un phénomène qu'on observe dans toutes les récessions. Ça, c'est une chose, ça ne répond pas exactement, même pas du tout, enfin pas entièrement à la question, même si ça jette, c'est bon à savoir. Après, j'ai l'impression que la vraie réponse à votre question, c'est par exemple, quand la gauche, la droite d'abord, puis la gauche, ont fait passer en quelques générations le nombre de diplômés du supérieur long de moins de 10% pour les générations nées à la fin des années 50, au début des années 60, à 20% pour les générations nées au début des années 70. Hein, c'est donc ces générations-là qui ont pris de plein fouet la démocratisation, qui ont bénéficié à plein d'un point de vue éducatif de la démocratisation des années 80. Est-ce que ça, donc ce changement, est-ce que ça a changé quelque chose pour le pays, pour la croissance, pour les emplois qui se sont créés? Est-ce que le fait de modifier ainsi les générations qui arrivent 6 ans plus tard par rapport à 6 ans avant sur le marché du travail, ça change quelque chose par rapport aux tendances, les tendances un peu technologiques, démographiques du marché du travail dont on a l'impression que rien les infléchit? Moi, c'est, de mon point de vue, dans les données, l'argument le plus convaincant que j'ai trouvé en faveur de... un certain effet des décisions éducatives et des politiques éducatives sur les emplois qui se créent, sur la dynamique de croissance, c'est quand on regarde vraiment au fil des générations ce qui se passe, on s'aperçoit qu'au même moment, il y a une coïncidence entre l'inflexion à la hausse et l'inflexion à la baisse, au même moment que se produisent ces politiques éducatives, donc il faut réhabiliter, auquel il faut rendre hommage et bien comprendre ensuite pourquoi elles ont été à ce point discréditées. Quand on regarde donc au fil des générations ce qui s'est passé, on s'aperçoit avec une coïncidence quasi parfaite, hein, pour les générations 60, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, on voit la qualité des emplois qui se créent au moment où les tant d'un point de vue salarial que d'un point de vue place dans la hiérarchie sociale, que d'un point de vue exposition au chômage, on voit la qualité s'infléchir à la hausse très rapidement. Il y a un rapport si vous envoyez sur le marché du travail sans diplômé du supérieur long supplémentaire, ça va créer, alors avec tout ce qu'il faudra mettre derrière ce terme, ça va créer dans les 5 ans qui suivent 60 environ, entre 50 et 60 nouveaux emplois de cadres dans cette population-là. Donc quand on regarde comme ça, quand on fait exactement la chronologie précise des politiques éducatives, des inflexions qu'elles ont impulsées dans le niveau des générations successives, on voit que le monde n'est pas complètement malthusien, qu'il y a une certaine réponse. Et pour finir, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, il y a quand même, j'ai aussi travaillé dans une autre vie beaucoup sur la dynamique des entreprises du secteur privé, et on a été, avec le groupe de chercheurs auquel j'appartenais, parmi les premiers à montrer que la vision statique des entreprises est complètement fausse, c'est-à-dire que des toutes petites variations d'emploi nettes recouvre des renouvellements considérables du tissu des entreprises. Il se crée chaque année des millions d'emplois, c'est-à-dire que pour une évolution de zéro pour une entreprise, ça signifie qu'elle a renouvelé 15% de ses emplois en moyenne. Et deuxième enseignement de cette littérature sur la dynamique des entreprises du privé, il faudra parler du public après, parce que lui est beaucoup plus malthusien, et c'est là où je pense qu'il y a des éléments très nettement malthusiens. Pour finir, les entreprises, elles sont très flexibles et leur trajectoire dépend, à mon avis, de manière au moins partielle, au moins importante, des personnes qu'elles ont, qui sont rendues disponibles pour renouveler les emplois qu'elles perdent, qu'elles détruisent naturellement avec les départs naturels, etc.
Alors Marie Durubella, est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Est-ce que vous voulez faire
disons que je ne suis pas complètement d'accord, mais ça, Eric le sait bien, on a déjà discuté ensemble. Il y a trois choses qui me gênent dans cette affaire. Enfin, éducation et croissance qui est très complexe, et je ne suis pas économiste et sans doute moins compétente que lui pour en juger. Mais d'abord, on dit l'éducation pourquoi? Quelle éducation pour quelle croissance? Quand on lit Aguillon et Cohen, on a l'impression que, d'abord c'est des conjectures hein, qu'ils ont fait à une période qui a changé depuis, mais bon, ça personne n'est parfait, ça c'est inévitable. On a l'impression qu'ils défendent le plus l'éducation, développons l'éducation, notamment l'enseignement supérieur, et il me semble que la question c'est quelle éducation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner uniquement en termes de quantité. Je pense qu'on a beaucoup souffert dans notre système avec des objectifs purement quantitatifs, du genre ben voilà, on va faire 80% au bac, alors maintenant on dit 50% au sup, et puis quoi? C'est-à-dire, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on met derrière et pas simplement défendre la longueur, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi des études plus longues en elles-mêmes développeraient la croissance. La deuxième chose qui me gêne, c'est que l'objectif de tout ça, souvent, c'est que la France reste en tête dans la compétition, enfin, garde sa place dans la compétition internationale. Et ça, je dois dire que des fois, j'en ai un petit peu marre. C'est ce thème de l'économie de la connaissance, hein, proclamé par Lisbonne. C'est il faut que nous, les pays riches, qui sommes évidemment les plus intelligents, on se garde les emplois les lourds en connaissance, et puis les pays pauvres, un peu bêtes, feront les sales boulots. Donc, je pense que tout ce thème d'économie de la connaissance, rester en tête, être les plus instruits, etc. Je pense qu'il faudrait le discuter, qu'il n'est pas, c'est pas en tout cas une fatalité. D'ailleurs, on voit bien ces dernières années qu'un certain nombre de pays dits pauvres rattrapent très rapidement leur retard en matière d'éducation. Et puis, le dernier point, c'est est-ce qu'il n'y a pas des effets de plafond? Les économistes connaissent bien les effets de plafond, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien en général, mais au-delà d'un certain seuil, ça se gâte. Hein, si on dit qu'il faut de l'eau sur la terre pour que les plantes poussent, ça ne veut pas dire qu'il faut un cyclone tous les jours, parce que là, ça deviendra vraiment mauvais, quoi. Donc, on se dit, dans la période qu'a étudié Eric, effectivement, où l'éducation, le niveau éducatif des Français était beaucoup plus faible, cet accroissement a produit des effets positifs. Est-ce que, du coup, on va doubler? Est-ce qu'on va passer, donc, de 40% de jeunes diplômés du SUP à 80% et que ça suffira pour résoudre le chômage? Tout le monde sait bien que non. Donc, je pense que c'est ces questions-là qu'il faut poser.
Alors, je vous en prie, bien sûr. Vous voulez réagir alors?
Oui,
Bertrand Montubert.
Oui, j'aimerais bien réagir. D'abord pour aller dans le sens de ce qu'a dit Marie Durubella sur la question de l'économie de la connaissance. S'il y a un terme qui aujourd'hui exaspère la plupart des chercheurs et des universitaires, c'est effectivement de réduire la dimension du savoir, le savoir à sa seule dimension économique. D'une part, et d'autre part, de mettre en permanence en avant une nécessité de compétition, comme si on était en guerre permanente avec tout le monde. Alors j'ai peut-être, puisqu'on est dans un forum sur réinventer la démocratie, donné l'impression d'être naïf, alors que nous sommes dans une crise terrible, mais peut-être qu'il faudrait réhabiliter des valeurs aussi simples que celles de l'internationalisme. Et après tout, en tant que socialiste, je crois que c'est une chose que nous devons mettre en avant. Le fait que si on fait une politique, ce n'est pas nécessairement pour être meilleur que les autres, pour les écraser, mais tout simplement pour les développer. Et là où, en revanche, je vais prendre mes distances avec ce que vous venez de dire, c'est que justement, si on regarde l'ensemble des dimensions du savoir, on a, je crois, un impératif de transmission du savoir, de développement des connaissances dans la société, parce que ce n'est pas simplement la question de la croissance, du chômage, etc., même si ça a un rôle, et Éric Morin le dit, donc je ne cherche pas à minorer ce rôle-là, je cherche à dire aussi qu'il y a d'autres dimensions. Il y a des dimensions tout simplement au niveau sociétal. Est-ce qu'on a envie d'une société où les gens sont de plus en plus instruits, ont les moyens de vivre mieux ensemble parce qu'ils ont plus de culture? Et je crois que c'est ça qu'il faut réhabiliter. Il faut particulièrement le réhabiliter aujourd'hui où c'est attaqué de toutes parts par un pouvoir qui, en fait, le méprise de manière très profonde. Lui, ce qu'il ne voit, c'est effectivement un côté utilité économique, qui, en soi, d'ailleurs, est totalement absurde, parce qu'en réalité, on ne peut pas dissocier comme ça la capacité d'une personne à être, on va dire, efficace économiquement et à être cultivée. D'ailleurs, tout notre système de formation le montre bien. J'ai à ma droite, je crois, un polytechnicien. Les polytechniciens sont, on va dire, l'élite des entreprises, et pour autant, leur formation est en réalité une formation extrêmement large en termes culturels. Quand j'entends...
Peut-être qu'elle pourrait être meilleure. Non, mais attendez. Moi, quand j'entends les discours sur la nécessaire professionnalisation, il y a des moments où je m'amuse, parce que la professionnalisation des polytechniciens, quand ils suivent un certain nombre de cours, dont je sais très bien quelle est la liste, je vais vous dire, elle n'est pas plus forte que celle qu'il y a à l'université. Et tout ça. Comment ? Finkielkraut. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut réhabiliter, je crois, c'est le fait que le savoir en soi, et y compris l'étude peut-être de la princesse de Clèves, a une importance en soi pour les individus et même a une importance dérivée, y compris en termes économiques. Et d'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, on met en place des formations généralistes qui sont aussi importantes.
Roger Establet, vous souhaitez réagir à ces propos ?
Oui, je voudrais dire que ce qu'on peut voir dans les évaluations, qu'elles soient celles du PISA ou qu'elles soient celles qui sont faites en France dans la tradition de Claude Tello dans les écoles, c'est qu'avant de se poser la question de savoir s'il faut 80, 50, 60, si c'est bon ou pas bon, ce qui est terrible dans nos écoles en France, c'est ce que montre l'enquête du PISA, mais c'est confirmé par toutes les études que nous avons sur le sujet, c'est qu'il y a un niveau beaucoup trop fort d'élèves faibles. On a 20% que ce soit 17, 18, peu importe, que ce soit bien ou mal mesuré, il y a ce premier problème que nous avons à traiter, c'est-à-dire faire en sorte de combattre à sa racine l'échec scolaire en évitant tous ces redoublements, ces groupes de niveau que l'on crée partout. Et après, bon, ben, on peut être optimiste parce que ce sont les pays qui font le moins ces choses-là, ces redoublements, moins de redoublements, moins de groupes, pas de groupes de niveau, véritable école fondamentale, ce sont eux qui ont l'élite la mieux formée. Alors évidemment, on ne mesure pas tout dans cette élite, bien entendu, on ne va pas rentrer là-dedans, mais enfin, ce sont des gens qui sont bien formés, qui se débrouillent, qui poursuivent des études, etc. Alors ensuite, on dit, bon, l'objectif quantitatif, donc moi je pense qu'il y aurait un premier objectif quantitatif, ce serait d'éviter qu'on ait trop d'élèves, 20% d'élèves qui savent vraiment mal se débrouiller en mathématiques, vraiment mal déchiffrer un texte écrit, vraiment mal connaissent très peu de choses spontanément sur le monde extérieur. C'est ça qu'on devrait mettre comme objectif prioritaire, avec toute la confiance que ça donnera pour le reste.
Et ça, je pense que dans les travaux de Marie Duré-Bella, il y a des clés pour répondre à ça, c'est-à-dire et François Dubé aussi ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on a appris avec leurs travaux, c'est que ça se crée petit à petit au fil du système éducatif et qu'il n'y a pas de solution. Je ne pense pas qu'il y ait de solution absolue, radicale, unique à l'éradication de ce problème. Ça commence à la maternelle, parce que ce qu'on observe, ce que vous avez observé à PISA à 15 ans, en fait, quand dans les instruments de mesure, on n'a pas parlé tout à l'heure des bilans de grande section qu'on peut regarder à la fin des années de maternelle. Et moi, pour les avoir regardés en détail, je peux vous dire que c'est assez poignant, parce que les enfants de 5 ans, il y a des petites questions sur la capacité à faire des phrases, à aligner 3 mots, à maîtriser à peu près la syntaxe. Et vous avez déjà, à 5 ans, des inégalités considérables qui sont déjà là, d'emblée, et puis on les retrouve au CP ensuite. Donc il y a tout un cheminement. Alors il y a eu toute une offensive récemment pour déplacer la question de l'échec scolaire du collège au primaire. Franchement, je ne suis pas archi convaincu par... alors on entre peut-être un peu dans le détail, mais pas vraiment convaincu par cette offensive qui, je ne sais pas trop quel était son fondement, parce que quand même, quand on regarde de nouveau, quand on suit les travaux de ceux qui ont regardé en détail les parcours scolaires, on voit qu'aujourd'hui encore... Au primaire, certes, les inégalités ne se réduisent pas, mais elles n'augmentent pas. Enfin, sauf si je n'ai pas actualisé mes derniers travaux produits sur le sujet. En revanche, ça reste bien le choc du collège et du secondaire, où là ça explose. C'est-à-dire, les enfants n'arrivent pas du tout armés pour encaisser 10 profs, chacun ayant un monde de discipline, quoi. C'est-à-dire des profs de français qui sont attachés à leur discipline au moins en partie, des profs de maths également, et qui rigolent pas avec ce patrimoine qui fait partie de leur identité. Et c'est là, en tout cas, que les inégalités continuent, sauf si Marie me contredit, c'est là où les inégalités commence à exploser sérieusement.
Alors Marie Durubella, souhaitez-vous contredire précisément?
Non, pas contredire, mais disons, c'est vrai que les inégalités s'accroissent plus au niveau du collège pour un certain nombre de raisons liées au contenu et à l'organisation. Ceci dit, on ne peut pas considérer, dire aussi calmement que tu le fais, je veux dire que l'école primaire ne réduit pas les inégalités. Les enfants arrivent inégaux à l'école primaire et elle devrait les réduire, c'est quand même son job. Hein.
Si je peux juste, là cet argument, j'ai du mal à en parler, parce que moi, mon impression, c'est que s'il n'y avait pas d'école, les inégalités, elles exploseraient, parce que qui éduque les enfants, c'est des parents totalement inégaux face à ce problème. Et si tu n'avais pas je suis agréablement surpris de ne pas voir les choses empirer à l'école primaire. Vous, étant donné mon expérience de l'inégale capacité des familles à apporter leurs enfants, donc à la limite, là on est, pour être conservatif, disons qu'on ne sait pas. Mais ça se trouve, le rôle de l'école primaire produit en CM2 des enfants qui sont moins inégaux qu'ils ne le seraient s'il n'y avait pas d'école.
D'après les études qu'on faisait niveau par niveau, il y avait quand même un léger accroissement des inégalités sociales, y compris d'ailleurs pendant la maternelle. Donc je pense que c'est quand même plus facile de récupérer des inégalités d'acquis quand l'enfant a 5 ou 6 ans que d'attendre qu'il en ait 15 ou à l'université, on va dire, on va leur réapprendre. Enfin, ça paraît logique. C'est quand même cumulatif, les acquis. Enfin, les progressions scolaires sont cumulatives. Et donc, plus on s'attaque tôt, c'est d'ailleurs le sens de beaucoup de ce que font beaucoup de pays européens, hein, qui font des suivis individualisés dans les petites classes pour éviter que ça se... ou toutes les politiques de garde de jeunes enfants que tu connais bien, qui s'attaquent justement au problème quand il est très, très précoce, quoi. Mais enfin, j'avais un autre point, mais si tu veux répondre, parce que je voulais juste rebondir une minute sur ce que disait Bernard sur les savoirs. Je pense qu'évidemment, pour les savoirs, on est tous pour la démocratisation des savoirs. Le problème de l'école, c'est qu'elle a deux fonctions qui sont en tension. C'est qu'à la fois, effectivement, elle éduque, elle dispense des savoirs. Et tout ça, c'est bien, et on peut en prendre tant qu'on veut. Le problème, c'est qu'elle prépare aussi à l'insertion. Elle prépare à des emplois qui sont inégaux. Et là, il y a un problème de sélection. Et donc, c'est cette tension entre éducation et sélection qui cause tous ces ennuis sur lesquels on est aujourd'hui. Donc ça, on en reviendra sûrement, je pense qu'on y reviendra dans les discussions, mais c'est ça le problème. Hein, parce qu'on ne peut pas non plus imaginer que tout le monde fasse polytechnique. Par contre, on peut imaginer que tout le monde atteigne tous les savoirs et soit curieux pour la vie par rapport à des tas de choses. Mais tout le monde à polytechnique, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc il faudrait que... c'est ça le problème.
Alors je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant de la démocratisation des études supérieures et de l'enseignement, en d'autres termes, de l'accès de tous aux études supérieures. Il se trouve que depuis quelques années, on observe une baisse du taux de poursuite des études des bacheliers, ce qui est un problème en soi. On peut aussi évoquer la question de la gratuité ou les frais d'inscription dans le domaine des études supérieures. La gratuité ou sa remise en cause sont, je crois, un serpent de mer du débat depuis au moins 1986. C'est une question que je voudrais poser, que je voudrais vous poser. On pourrait dire précisément à l'égard de cette gratuité qu'elle est censée profiter à tous en donnant à tous la possibilité de poursuivre des études, mais dans les faits, on pourrait dire aussi qu'elle ne profite qu'aux enfants de cadre. Bon, je le dis de manière un petit peu provocatrice. Éric Morin, est-ce que vous souhaitez intervenir sur cette question ?
Poser peut-être les termes du débat, qui, c'est vrai, il s'engage toujours super mal, mais les termes du débat, c'est quand même que les études supérieures coûtent très, très inégalement cher. Alors de mémoire, là, j'ai pas du tout travaillé la question récemment, mais de mémoire, c'est quand même, il y a des différences énormes, hein, entre quelqu'un qui suit la filière classe préparatoire, grandes écoles, et quelqu'un qui suit une filière universitaire lambda. Vous avez des différences de coûts qui sont de 1 à 3 ou quelque chose comme ça. Hein, et parallèlement, l'accès aux filières les plus coûteuses, qui sont en général celles qui ont le meilleur rendement ensuite en termes d'insertion professionnelle et d'obtention de salaires élevés dans la vie professionnelle, sont de manière écrasante monopolisées par ceux qui en ont déjà bénéficié quand ils étaient jeunes et qui appartiennent aux classes supérieures de la société. Ce qui fait que la gratuité actuelle signifie en fait... Enfin, il n'y a pas de gratuité. La gratuité actuelle signifie que les impôts de tous financent d'abord et avant tout, de manière très inégale, ceux qui... une petite fraction de la population, de la formation de la population. Donc sur cette base, il y a une injustice. C'est-à-dire que le statu quo signifie qu'on perpétue une forme... d'injustice dans le système. Après, je pense que là, j'ai peut-être pas très bien posé les termes du débat, mais je pense qu'il y a relatif accord là-dessus. Après, il y a une question fondamentale, il ne faut pas se le cacher, c'est-à-dire jusqu'où on considère que l'éducation doit être financée par l'impôt, par tout le monde, étant entendu par là qu'on considère que c'est un capital social et que tout le monde bénéficie de sa diffusion dans la société. Ma compréhension de l'état actuel, c'est qu'il y a un consensus implicite sur le fait que, jusqu'à 16 ans, en tout cas dans la loi, on est d'accord avec ça, on doit obtenir le socle minimum pour tout le monde, et ça tout le monde, il y a un accord démocratique implicite pour dire tout le monde souffre s'il y a quelqu'un qui n'est pas au socle, parce que ça fait quelqu'un qui ne s'intègre pas, et il y a des coûts pour toute la société. Après, la question politique, c'est jusqu'où on va, quoi. C'est ce qu'on est, c'est 18 ans. Après, en fait, le vrai accord, il est jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac. Et après, est-ce qu'on est prêt collectivement à dire, non, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que l'éducation pour tous, c'est un bien public qui doit être. Alors, je ne sais pas si. Marie Durubella, justement, ne pense pas ça. J'ai l'impression, si je comprends bien ce qu'elle vient de dire, jusqu'à 22 ans, 23 ans. Parce que. C'est la frontière qu'il s'agit là de délimiter, c'est la frontière entre le moment où on dit, à partir de maintenant, vos choix éducatifs, on ne va pas vous forcer à les faire, ça y est, on considère que pour la société c'est bon. Maintenant il s'agit d'arbitrage privé, il y a ceux qui veulent sortir à 18 ans parce que voilà, l'école ils en ont marre, c'est pas fait pour eux et qu'ils ont des opportunités qui leur plaisent. Ceux qui veulent aller plus longtemps, ça devient un arbitrage au moins en partie privé. Et à ce moment-là, si on a fait ce choix politique ensemble, l'arbitrage privé, tout le monde ne va pas payer pour que le fils d'un tel devienne médecin. C'est lui qui va payer pour cette formation. Alors après, donc ça, c'est une première question très, très fondamentale. Après, il y a une question plus technique qui se mélange un peu avec la première. C'est comment on fait si on est d'accord avec le fait que ça devient un arbitrage privé. Après, on peut discuter. Je pense qu'il y a des solutions assez saines qui consistent à faire payer les gens non pas ex ante, au moment où ils sont encore pauvres, mais ex post, quand c'est réalisé l'incertitude sur le produit réel de cette formation, c'est-à-dire une fois qu'il est vraiment formé médecin et qu'il gagne des salaires élevés, à ce moment-là, on lui demande de payer tout ce qui a correspondu à ce que, politiquement, tous ensemble, on a considéré comme étant un arbitrage privé.
Bertrand Montubert, vous avez une opinion, certainement.
Oui, alors... La question peut tout à fait de la même manière se poser sur le lycée. J'ai des experts qui vont me donner les vrais chiffres, mais si on regarde les classes de S au lycée, d'une part, les élèves qui y sont ont aussi, un avantage d'insertion économique plus important que ceux qui vont être, par exemple, dans un bac pro ou dans une filière technologique. Et je suis prêt à parier, je ne connais pas les chiffres, mais je suis prêt à parier que là aussi, on a une inégalité sociale très forte. C'est-à-dire qu'on trouve en S beaucoup plus de proportion des cadres, beaucoup plus forte qu'en lycée technologique. Bon. Donc, en utilisant le même argument, rendons payantes les études en classe de S. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un défendra ça? Je ne crois pas. Nous sommes dans un théâtre. Je suis prêt à parier, je ne connais pas les chiffres, que ce théâtre, qui, à mon avis, est fortement subventionné par l'État, par la mairie, etc., accueille dans son public beaucoup plus de gens qui viennent des classes favorisées que des classes défavorisées. Est-ce à dire qu'il faut supprimer les subventions publiques? Je ne crois pas. Alors, je crois que là, vraiment, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la société veut investir ou pas vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs, la culture, la connaissance, ou non? Et comment elle le fait? Alors évidemment, la question de l'impôt est dominante. Mais moi j'aimerais qu'on puisse défendre enfin aujourd'hui la valeur de l'impôt, et notamment de l'impôt sur le revenu, qui a été vu comme quelque chose qu'il fallait nécessairement réduire en permanence et qui nous conduit à la catastrophe que nous connaissons aujourd'hui. On a un débat, je vais aller plus loin, puisque la question en vient à la question de l'arbitrage privé et donc du bénéfice individuel qu'il y aurait à faire des études. Alors, soyons clairs, un médecin est censé gagner pas mal sa vie, je crois que c'est de moins en moins vrai, ça dépend d'ailleurs où est-ce qu'il exerce,
un médecin de campagne, c'est pas forcément... Il y a eu des statistiques hein, sur les revenus. C'est pas si clair que ça, mais quand même, l'impact pour la société est énorme. Est-ce qu'on veut avoir des médecins ou pas? C'est quand même pas un problème privé. C'est bien un problème pour notre société. Donc, est-ce qu'on veut investir là-dessus? Alors là, la question de la démocratisation de l'accès à ça se pose complètement. Mais le fait de dire, il n'y a pas assez de démocratie, donc on va supprimer ces financements publics pour en faire des financements privés, là je crois qu'on irait à contresens de ce qu'il faut faire. Mais allons plus loin. Si la question qu'il y a derrière, c'est la question du bénéfice économique qui est tiré par les études. Mais posons-nous la question de l'échelle des revenus dans la société. Aujourd'hui, on parle de manière importante de la question des sursalaires des patrons. Bon, mais il faut aller plus loin. Est-ce que ce qu'on veut, c'est une société où les salaires peuvent aller de 1 à, je ne sais même pas combien, 100 ou 1000, ou est-ce qu'on veut au contraire réduire cette échelle des salaires? Donc, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, puisque ce sont des questions qui sont effectivement déterminantes pour définir la société dans laquelle on a envie de vivre. Bon, à partir de là, je crois qu'il est essentiel qu'on ait un financement public de l'enseignement supérieur qui renforce le financement universitaire pour réduire les inégalités qui sont tout à fait justes, qu'a mises en lumière Éric Morin au début, où on a un facteur 1 à 2 ou 3 entre un étudiant, mettons, en licence de lettres et un étudiant en classe préparatoire scientifique, c'est environ 3 le facteur. Je crois qu'il y a besoin de réduire cet écart-là. Il ne faut pas le réduire simplement parce qu'on veut une égalité pour l'égalité. Il faut la réduire tout simplement parce que cette inégalité, elle conduit à de l'échec. Un échec important. Et donc, pour faciliter les études en premier cycle universitaire, il est clair qu'on a besoin de pouvoir mettre plus d'enseignants, plus d'encadrement, etc. Donc, on va devoir le faire. Mais nous avons les moyens de le faire. La démocratisation, puisque c'est le thème de la table ronde, elle est effectivement en panne. Yvon Jablonka a dit tout à l'heure qu'il y avait une baisse du taux de poursuite des études chez les bacheliers, ce qui est quand même très préoccupant, qui va à l'encontre du sens de l'histoire tel que Éric Morin nous l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire quand même un accroissement des qualifications qui lui-même aurait donc une incidence sur la croissance économique. Donc il faut relancer cette machine-là. Mais on ne la relancera pas en faisant payer les étudiants leurs études, en faisant du fait de faire des études un enjeu privé. Je crois au contraire que c'est un enjeu pour l'ensemble de la société et qu'on doit justement mettre en place des systèmes d'aide aux étudiants pour qu'ils puissent faire des études et notamment les inciter à faire un certain nombre d'études dont ils se détournent aujourd'hui fortement. Je pense tout particulièrement à tout ce qui peut se passer sur la question de l'enseignement, de l'accès aux carrières d'enseignement, puisque nous avons aujourd'hui une baisse extrêmement forte du nombre d'étudiants dans toutes les filières, on va dire, traditionnelles, les disciplines de base. On a parlé des sciences. Mais c'est aussi l'histoire, c'est surtout la philosophie, par exemple. Il y a des pans entiers du savoir aujourd'hui qui sont en train d'être décimés par manque d'étudiants. Il faut, au contraire, les inciter à faire ça. Et finalement, la France a un fort passé à ce niveau-là, puisqu'elle a mis en place des dispositifs dans l'histoire qui ont extrêmement bien fonctionné. Je pense aux IPES dans les années 60, qui ont formé toute une génération avec des brillants spécimens comme Roger Establé, mais beaucoup d'autres, et qui ont été un moment d'ascenseur social extrêmement fort. Mais je pense aussi à des systèmes qui existent depuis extrêmement longtemps, comme après tout l'école polytechnique, les écoles normales supérieures, où non seulement les études sont gratuites, mais en plus on paye les gens pour le faire. Mais on le paye en leur disant, attention, on ne vous paye pas simplement pour faire des études, vous vous engagez envers l'État. Et je pense que cette notion d'engagement envers l'État, elle est intéressante, elle est à réhabiliter. Il faut sans doute le faire sous une forme qui est actualisée, mais on doit au contraire réfléchir à partir de là pour proposer la manière dont on va démocratiser l'enseignement supérieur de demain.
Roger Establet.
Oui, je voulais simplement dire que sur les inégalités, bon, la mesure de la croissance des inégalités dans la dernière période est très difficile à faire, hein, parce que bon, là-dessus, il y a eu des travaux mathématiques compliqués, puisque quand on passe de 1% à 2%, ça ne double pas, puisque quand on passe de 99 à 98, on ne se divise pas par deux, et que c'est la même chose. Bon, alors donc c'est un peu difficile, néanmoins, on peut dire que l'accroissement quantitatif, quand on prend les travaux de Bourdieu et Passeron dans les années 60 en 2000, la démocratisation, elle est quand même réelle. Hein. Quand les ouvriers sont passés de 1 à 38% d'accès à l'enseignement supérieur, tout compris, pendant ce temps, les cadres supérieurs, ça passait de 37 à 81. On peut discuter si c'est plus, si c'est moins. En fait, quelle que soit la mesure, je crois qu'il y a, il y a eu quand même une réduction des inégalités par le fait quantitatif. Cela dit, ça reste le problème que posait Marie est entier, c'est-à-dire si on va vers ce quantitatif, d'abord c'est pas forcément pour être mieux classé, c'est aussi parce qu'on est mieux placé dans des pays riches pour former les médecins dont je sais bien qu'on a besoin un peu partout dans le monde, hein, pas simplement pour dire on est les meilleurs. D'ailleurs, on n'est pas les meilleurs. Hein. En France, on peut dire, parmi les 30 pays qui sont là, nous ne sommes pas les meilleurs. La petite France, elle est mal classée, elle est 17e sur 31, 18e en maths. C'est pas terrible si, quand les gosses ramènent des notes comme ça à la maison, on les félicite pas. Donc, on aura bien sûr une question à se poser sur les orientations. Si, supposons qu'on dise, en réfléchissant, je ne sais pas s'il faut 100%, il y a des pays qui ont 100% de personnes dans l'enseignement supérieur, mais ça ne veut pas dire qu'ils font la même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous faire de la philosophie, etc. Il y a bien sûr des orientations qui sont certainement sélectives. Hein. Bon, alors, ça, c'est le vrai problème. Parce que quand on pose le problème, faut-il rendre l'école gratuite, l'enseignement supérieur gratuit, diminuer les droits d'inscription, etc., c'est éternellement les gens de droite qui ont toujours mis sur le tapis, dans toute l'histoire de France, les inégalités sociales pour dire, attention, il faut que les lycées soient payants parce qu'il n'y a que les riches qui y vont. Eh bien, quand même, malgré tout, hein, aujourd'hui, il y a plus que les riches, c'est pas seulement les riches qui y vont. Même si on peut dire que dans l'école fondamentale, les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés, ne tirent pas tous les bénéfices qu'ils pourraient tirer de cette école. Et je trouve que c'est un débat vraiment piégé. C'est comme sur le secteur fermé de l'enseignement supérieur. Alors on dit, ils réussissent mieux quand ils sont dans le secteur fermé. Eh oui, ils ont été sélectionnés pour ça, et le secteur est malthusien. On pourrait se dire aujourd'hui, en réfléchissant, alors, pour gagner de l'argent, pour la collectivité, je veux dire, que le malthusianisme des écoles de médecine, des études de médecine est quand même quelque chose de stupéfiant, hein, qui est quelque chose de dysfonctionnel. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent des études de médecine aujourd'hui et que quand on anticipe le numerus clausus, on oublie comme par hasard de se dire ce dont, par ailleurs, peut-être on se félicite, que ces femmes travaillent parfois à mi-temps. Et donc, on a de la place, il y a de la place, et c'est là où il y a de la place que c'est le plus fermé. Et dans le dernier travail que nous avons fait, nous avons remarqué tout de même, et là je vais un peu dans le sens de Montubert, que ces élèves brillants qui sortent des grandes écoles, qui ont été sursélectionnés dans les classes d'ES, et qui sont les meilleurs scientifiques de notre pays, au moins au départ, si on croit aux valeurs du système scolaire, quand ils rentrent dans la production, quand ils rentrent dans les professions, il y en a très peu qui vont sur les paillasses dans le laboratoire. Ils vont diriger des entreprises. Moi, j'ai un exemple tout à fait magnifique du meilleur élève du lycée Masséna où j'étais élève, qui était quelqu'un de tout à fait brillant. Les gens craignaient de passer en mathématiques après lui parce qu'il ne demandait jamais d'avoir de temps de préparation, quel que soit le sujet. Je ne donne pas le nom. Il a dirigé. Eh bien, ce type-là aurait pu être une médaille Fields. Il aurait dû faire ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une carrière brillante, d'ailleurs, très certainement bien rémunérée, en dirigeant des entreprises privées. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que nos docteurs ne puissent pas rencontrer des ingénieurs dans le cadre des laboratoires, qu'ils ne puissent pas les rencontrer, puisque ce sont des carrières. C'est non seulement des systèmes qui sont étanches et de façon tout à fait artificielle, mais c'est des systèmes qui ne communiquent pas non plus sur les débouchés.
Rédu Rubella, je suis sûr que ces débats vous inspirent des réflexions.
Oh, j'en sais rien. Non, il y a des petites choses. D'abord, pour revenir quand même à l'idée que c'est toujours un bien public, les études supérieures, l'exemple des médecins est facile. Il y a des exemples qui dérangent un peu plus, par exemple, et qui sont liés au problème de redistribution. Quand on voit les polytechniciens, un polytechnicien, ça coûte 15 fois plus cher qu'un étudiant de premier cycle de droit. Bon. Et on sait qu'aujourd'hui, les politiciens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont traders, ils vont dans la finance. Alors ça, l'éducation, bien sociale, rendement social de l'éducation, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bémols, et on ne peut pas passer comme ça sur cette question, je pense qu'elle est quand même très sérieuse. Deuxième question, qui est peut-être plus délicate, c'est peut-être un peu provocant d'ailleurs de la poser, c'est que l'éducation a aussi un aspect consommation privée. Je veux dire, je ne vais pas payer les cours de piano de la fille de mon médecin, justement. Donc c'est à partir de quand on considère que l'éducation, elle est purement privée, et à partir de quand on considère que c'est un bien social? Je pense que c'est une question un petit peu plus difficile. Je pense que tant qu'on est dans le cadre de la scolarité obligatoire, c'est 100%, c'est qu'on considère, si on a rendu la scolarité obligatoire, c'est qu'il y avait un bénéfice social, un rendement social évident. Hein, ça, c'est clair. Mais au-delà, est-ce que pendant toute la vie, on va considérer que c'est un bien social? Je pense que c'est une question difficile, je n'ai pas de réponse, mais qu'en tout cas, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que vous avez évoqué. Et le dernier point qui me paraît le plus important, c'est qu'un effet pervers de l'éducation gratuite, notamment du supérieur gratuit, c'est que ça incite les jeunes à penser que l'insertion, c'est forcément des études. Et ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans, la seule chose qu'on lui propose, c'est d'aller plus loin, ou de passer, comme on dit à l'université, même s'il n'a pas de projet, et de faire non pas des études de telle ou telle spécialité qui le passionne forcément, mais je vais faire un bac plus 2, un bac plus 3. C'est maintenant, quoi. C'est comme ça qu'il résonne maintenant. Ça, c'est extrêmement effrayant. Il y a d'autres façons de s'insérer. Si on regarde les pays vertueux du Nord, où les allers-retours avec la vie professionnelle sont nombreux, souvent ces jeunes sont par ailleurs plus épanouis, se déclarent plus heureux, que si on leur avait dit ben, « restez donc 4-5 ans comme ça, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, je ne reprendrai pas l'image de s'échauffer, mais voilà ». Donc là, je pense qu'il y a un problème quand même aussi, et que la gratuité, elle incite à prolonger.
Éric Morin, vous souhaitez réagir ?
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Marie. Sur l'exemple des polytechniciens là, qui revient sans cesse, il y a une clause qui est effective. Moi je trouve ça assez bien, le truc des polytechniciens, si c'était appliqué, ce n'est pas vraiment. C'est que, et ça, il ne faut pas se tromper, c'est le genre de mécanisme qui me semble plausible, c'est qu'effectivement, au moment de commencer les études, on vous paie, donc c'est un prêt qu'on vous fait en fait, on vous donne de l'argent pour, c'était 1600 francs moi quand j'étais à l'école polytechnique, donc c'est en partie pour ça que j'ai fait cette école, parce que c'était quelque chose qui représentait beaucoup pour moi, mais en théorie, vous devez ensuite, il y a une contrepartie, c'est-à-dire bon, bah, on vous remboursez pas les 1600 francs fois 12 ou fois 36 qu'on vous a donné, mais vous vous engagez à 10 ans au service de l'État. Et c'est une forme de contrôle, on peut imaginer cette contrepartie, mais le mécanisme est bien là, on vous a prêté et vous rendez ensuite, dans la mesure où vous avez fait ce choix-là. Il me semble, étant donné ce que rappelait Marie sur les différentiels et sur ce que coûte un polytechnicien, ça ne me semble pas absurde que de pratiquer ce genre de dispositif. Dans le cas français, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas apparaître dans le débat qui est un peu connexe à tout ce qu'on vient de dire. Le cas français par rapport aux autres pays, pour ce qui est du rendement de l'éducation, ces histoires de rapport avec la croissance et tout ça, il y a quand même une équation assez typique de la France et plus généralement des pays d'Europe du Sud, c'est qu'on insère beaucoup de... On s'organise, on a un service public assez fort qui absorbe quand même une fraction non négligeable des gens qui sortent de l'école. Et notre univers, de même que notre univers scolaire, est quand même très structuré, pas par des différences de salaire ou des choses relativement flexibles, mais par des différences de statut, de protection de l'emploi. Bon, il faudrait faire l'historique de tout ça. Robert Castel le ferait mieux que moi. Et donc ça veut dire que nous, ce qui compte à nos yeux, par la force des choses, c'est des inégalités de statut. Et il y a un statut qui est particulièrement fort et convoité, c'est le statut de fonctionnaire. Et le statut de fonctionnaire, c'est la protection de l'emploi. Et ça absorbe, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai regardé avant de venir, ça absorbe environ 10%. C'est-à-dire que là, si vous regardez les gens qui sont sortis depuis 5 ans du système éducatif, vous avez environ 10% des jeunes qui sont allés dans la fonction publique. Et c'est un statut, alors là, c'est un secteur parfaitement malthusien, c'est pas quelque chose qui va se transformer au rythme de l'afflux de diplômés. Et donc là, c'est vraiment un domaine qui absorbe beaucoup d'énergie, enfin beaucoup de notre effort de formation, enfin une fraction importante, notamment quand il y a des récessions. J'ai regardé un peu ce qui s'était passé dans le sillage de la récession de 1993. Ça a été vraiment, c'était une malédiction pour l'effort de formation qui avait été avant, là, ce dont je parlais tout à l'heure. Là, pourquoi la démocratisation de l'école a été à ce point discréditée? C'est en partie parce qu'il y a eu cette récession du début des années 90 où on a découvert, c'était la première fois que le pays avait tant de diplômés, hein, on venait de faire cet effort, bam! Diplômés sont pas spécialement à l'abri du chômage, etc. Donc ça a beaucoup contribué au discrédit jeté sur les politiques de démocratisation. Et ce que je voulais dire, c'est que nous, dans notre équation, on a que les diplômés, la façon qu'ils ont de rentabiliser leur effort éducatif, c'est pas de le valoriser dans le marché privé, c'est de trouver un emploi protégé dans le secteur public. Et ce qu'on voit, ce qui est tout à fait poignant quand on regarde au fil des générations ce qui se passe dans le sillage de la récession de 90, c'est un afflux massif de diplômés juste après cette récession dans le secteur public. Si vous regardez la part des gens qui sortent de l'école, qui sont dans le secteur public, les diplômés, pardon, la part de diplômés parmi ceux qui rejoignent le secteur public dans les années qui sortent de la secteur qui suivent la sortie de l'école, ça passe de 20-25% au début des années 90, ça gagne 30 points. D'un seul coup, tous les nouveaux fonctionnaires sont des diplômés du supérieur. Parce qu'il y a eu la découverte que quand on va sur le privé, notamment quand il y a des récessions, il y a le risque du chômage. Donc dans notre équation, il y a ça, c'est qu'on s'organise beaucoup sur des inégalités de statut et que ça... Alors, qu'est-ce que ça produit comme effet pervers? Ça produit que des gens très qualifiés vont occuper des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés, surdiplômés, parce que, non pas parce qu'ils se déclassent, mais parce que, justement, ils se classent, ils se mettent à l'abri, non pas parce qu'ils perdent un statut, mais parce qu'ils en acquièrent un via la fonction publique.
Bertrand Montubert.
Alors je vais essayer d'être rapide. D'abord pour dire oui, effectivement, la question, l'éducation est-elle un bien social? Je suis d'accord qu'elle est complexe, cela dit, sur la question des cours de piano. On subventionne des écoles de musique. On a mis en place des enseignements artistiques, même s'ils sont terriblement rognés depuis quelques années, mais il y a quand même des plans de développement artistique, parce que tout simplement, on considère que c'est important aussi que les gens aient un développement artistique, ça participe à leur épanouissement personnel, et ça participe aussi à la vie de la cité, à un moment donné, d'avoir des gens, tout simplement, qui sont capables de pratiquer de l'art. Bon. Ensuite, je suis tout à fait d'accord sur la question formation initiale ou continue, et sur le fait qu'en France, on a un modèle, je pense que ça, c'est un des gros problèmes de notre modèle, c'est le fait qu'il faut faire les études à tel âge, dans tel truc, etc. Et ça, c'est terrible, on a une rigidité qu'il faut absolument combattre. Maintenant, la question, je crois, qui est quand même sous-jacente à tout ce qu'on a dit, et notamment quand vous disiez, finalement, les polytechniciens, il y en a plein qui deviennent traders, est-ce que c'est pour ça qu'on les a formés, qu'on a investi 15 fois plus pour un étudiant de droit? C'est un vrai problème. Donc il y a la question, comment est-ce qu'on fait appliquer le contrat? Mais d'une manière plus générale, la question aussi, c'est est-ce qu'on est capable, au niveau de la société, de pousser vers un certain nombre de secteurs. Moi, je suis quand même extrêmement préoccupé de voir qu'aujourd'hui, tous les secteurs de production sont complètement minorés par rapport au secteur de gestion. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où on marche sur la tête. Parce que la gestion, c'est quand même la gestion de choses qui ont été produites. Et donc, si on n'est pas capable de produire, qu'est-ce qu'on va gérer? Ce que produisent les autres? C'est ça, le modèle dans lequel on est en train d'entrer aujourd'hui. C'est un modèle où on ne produirait plus en France et où on gérerait la production qui vient d'autres pays. Mais ça, c'est extrêmement grave. Donc il faut au contraire qu'on puisse arriver à réinvestir, à réinciter les étudiants à aller vers le secteur de la production. Finalement, les politiciens vont être un peu notre fil conducteur. Donc restons dessus. Et je veux surtout dire que je ne fais pas de focalisation sur eux. Mais bon, c'est juste pour rester dans le droit fil. J'étais l'autre jour chez Thales, le directeur du centre technique qui montait les satellites, c'est un X-mine. Donc on a bien là, je dirais, un polytechnicien qui est investi dans le secteur de production et je dirais un petit peu dans le droit fil de ce qu'il fait. Essayons peut-être de les orienter plus vers la production plutôt que de leur dire allez faire du business, allez faire et allez nous permettre de conduire à la faillite mondiale en inventant les outils techniques qui conduisent au subprime. Voilà, mais donc, par contre, cette question est quand même très complexe. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, je pense que je n'ai pas résolu le problème. Une fois que j'ai dit on doit être capable, au niveau de la société, de se poser la question de l'incitation pour aller dans un certain nombre de filières, j'ai parlé de l'enseignement, on peut parler des secteurs de production, évidemment, ça se heurte à une question qui est celle du désir individuel de faire les choses. Maintenant, il est clair que ça ne se résoudra pas uniquement au niveau du secteur éducatif. Ça se résoudra notamment au niveau du secteur des entreprises. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens vont plus dans la finance que dans la production? Tout simplement que les salaires dans la finance sont bien plus élevés que dans la production. Là, on a un vrai problème social et on doit être capable, au niveau de notre société, de se poser la question. J'ai parlé de la question de l'échelle des revenus. Il faut voir aussi la question du rapport des revenus au sein des entreprises. Parce que ça n'est pas... On ne peut pas être dans un libéralisme qui conduit à dire les entreprises font ce qu'elles veulent. Si elles décident que c'est plus important de payer les financiers que les directeurs de centres techniques, c'est leur problème. Mais non, ce n'est pas simplement leur problème. C'est notre problème à tous. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir une politique industrielle, une politique de dialogue avec tous les partenaires sociaux
nous pour essayer de remettre en avant un certain nombre de professions qui aujourd'hui sont délaissées.
Alors Marie Durubella, quelques mots de conclusion.
Juste quelques mots qui s'enchaînent finalement assez bien. C'est-à-dire que, on n'a pas tellement mis l'accent là-dessus, mais le livre de Baudelot-Sablé le fait. Notre école est très inégalitaire et en France on est un peu presque fataliste par rapport à ça. On dit oui, une société inégale, école inégale. Ce que je voudrais dire juste pour terminer, ce qui est presque un message optimiste, c'est que quand on compare les sociétés, ce que je suis en train de faire avec, dans un travail comparatif avec François Dubé, on voit qu'il y a des pays qui sont plus inégalitaires que nous et qui ont une école moins inégalitaire. Et au contraire, le Japon, par exemple, qui a des inégalités sociales, de revenus importantes, fait réaliser à ses élèves des performances très, très égalisées. Il n'y a pas beaucoup d'inégalités sociales. Réciproquement, il y a des pays où l'école est par ailleurs sympathique et peu inégalitaire, comme certains pays de l'Europe méditerranéenne, mais où par ailleurs, après, il y a des inégalités sociales importantes. Donc ça veut dire qu'il y a du jeu entre les inégalités dans la société et ce qui se passe à l'école.
Alors le temps file et pour prolonger ce débat, je voudrais donner la parole à deux acteurs importants qui, chacun à sa manière, contribuent à la démocratisation du savoir. Ce premier acteur, c'est le CLEPT, qui est dirigé par Bernard Gerde, que nous allons accueillir à l'estrade. Et le deuxième acteur, c'est la Ronde des Obstinés. Alors le CLEPT, dont les initiales signifient Collège et Lycée Littéraire pour tous, est situé à la Villeneuve à Grenoble. Et il s'adresse aux élèves qui ont décroché, il pratique selon ses propres termes le raccrochage scolaire, ou en d'autres termes, emprunté cette fois à Bernard Gerde, le CLEP permet à ses élèves de réaliser, je le cite, leur désir d'école inassouvi.
Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une remarque introductive par rapport à ce que j'ai pu suivre depuis les coulisses de votre débat, et entre autres sur le propos qui a été tenu sur la différence de statut que l'on retrouve dans les processus de démocratisation inachevée, puisque hier il était dit que la démocratisation elle était condamnée à être dans l'inachèvement. Cette question des statuts, elle est visible là. Je suis debout, vous êtes assis, j'interviens à un moment où la parole est possible.
Je vais vous céder ma place immédiatement.
Non, je reste debout, ça me va très bien, mais elle est visible là. Donc, je vais continuer maintenant ailleurs, après avoir quand même dit cette chose que je trouve un peu significative. D'abord, je voudrais dire que si on est heureux d'être là aujourd'hui, les gens du CLEP, je ne suis pas tout seul, il y en a dans la salle, et je vais d'ailleurs m'adresser à eux, parce que je ne suis pas en train d'usurper un titre. J'ai été présenté comme directeur, je ne suis directeur de rien, je suis un des deux cofondateurs du CLEP. Mais c'est intéressant encore, parce que ça nous renvoie au statut. La légitimité de la parole doit être associée à un titre. Tout à l'heure, mes voisins ont été présentés, c'est complètement normal. Je ne suis pas du tout en train de montrer la normalité, mais je suis en train de montrer les processus des démocratisations et leur fonctionnement. Ils ont été présentés à partir de leur titre et de leur publication. Moi, j'interviens, derrière moi, il y a écrit CLEPT. Il se trouve que par ailleurs, je m'appelle Bernard Gerde et que je suis prof de lettres. Je suis un homme de terrain. Il y a donc des moments où les gens de terrain sont autorisés à prendre la parole et à dire un peu qu'il leur arrive, en même temps qu'ils font, d'être en posture méta pour analyser ce qu'ils font. Donc je vais m'autoriser de cette parole que la pratique du CLEPT me permet d'avoir, de nourrir et de construire depuis maintenant 9 ans. D'abord, je voudrais dire que défendre la démocratie, c'est une nécessité quand on veut la réinventer. Il faut la défendre avant de la transformer, puisque dans la réinvention de la démocratie, il y a une double problématique et un paradoxe. Quand on réinvente la démocratie, on donne le sentiment de vouloir la transformer. Je crois que la transformation de la démocratie est nécessaire pour qu'elle continue à remplir l'idéal démocratique et le sien en tenant compte de l'époque dans laquelle elle se déploie. C'est vrai également pour l'école. Quand on veut que l'école soit démocratique, il faut aussi que l'école soit à la fois et en même temps, paradoxalement, défendue dans son idéal démocratique et transformée pour pouvoir faire face aux défis du jour et aux nouveaux publics. Le CLEP existe parce qu'il y a eu des nouveaux publics. La massification a amené dans l'école des jeunes qui n'y étaient pas préparés. L'école n'était pas non plus préparée à les recevoir. Ça a permis de faire naître un nouveau défi pour l'école, celui du raccrochage scolaire. Car aujourd'hui que les jeunes sont entrés dans une école où ils ne pénétraient pas, en tout cas ces nouveaux publics, le défi est de les garder. C'était bien de les faire rentrer parce que ça donnait un schéma de démographification scolaire qu'on a pu croire à un moment être un schéma de démocratisation scolaire. Mais maintenant qu'ils sont là, ces jeunes, ils sont encombrants. Et comme on ne sait pas faire avec, très souvent, on décide de faire sans. En tout cas, c'est très souvent le réflexe de l'école dite démocratique en France. Le CLEPT a voulu absolument être à l'intérieur de l'éducation nationale publique. C'est une structure expérimentale. Elle aurait pu naître dans le privé, puisqu'on a parlé tout à l'heure du coût des études et de l'inégalité par rapport à ce coût. Si le CLEPT voulait être dans l'espace public éducatif, c'est parce que d'abord, il voulait que l'école apprenne de temps en temps à être son propre recours, qu'elle n'externalise pas les problèmes et qu'elle n'externalise pas en permanence non plus les solutions. Voilà, maintenant que j'ai un peu placé quand même le CLEPT dans une configuration qui lui donne peut-être un éclairage utile pour comprendre ses modalités, je vais davantage parler des modalités et du public. Le CLEPT, donc, accueille des jeunes décrocheurs qui ont entre 15 et 22 ans. C'est l'air de rien, mais je viens de proférer devant vous une énormité en disant 15. Parce que normalement, les jeunes ne décrochent pas avant 16 ans, c'est illégal. Depuis quelque temps, l'hypocrisie scolaire a cessé dans ce domaine-là. On sait aujourd'hui que 40 000 jeunes, à peu près, d'âge collège, décrochent annuellement de l'école. On chiffre à 130 000, à peu près, les décrocheurs scolaires. Ce sont souvent des décrochés. Des décrochés de l'école. Pourquoi ce sont des décrochés? Parce que dans les travaux que nous avons pu faire, il arrive au CLEP qu'on nous passe des commandes, on a eu à faire un travail sur les processus de décrochage scolaire pour l'INRP, on a aussi publié des choses, et dans ce travail, on montrait que ce qui était à la base du décrochage scolaire, c'était ce qu'on a appelé l'incompatibilité réciproque. Je ne suis pas fait pour cette école n'est pas faite pour moi. Du coup, on a décidé de travailler ce noyau dur de l'incompatibilité réciproque. Et on l'a travaillé comment? Mais à partir d'un levier qui a tout changé. Si aujourd'hui le CLEPT a de très très bons résultats, avec des jeunes qui arrivaient de destins scolaires dont on pouvait penser qu'ils ne déboucheraient sur aucune réussite certificative, si on a de très bons résultats, c'est parce que le CLEPT a pensé que les décrocheurs, c'était des analyseurs des insuffisances de l'offre scolaire. Ce qui fait que chaque décrocheur a eu l'occasion de vivre une monographie, c'est-à-dire un entretien guidé avec un questionnement un peu solide qui l'aide à se réapproprier son parcours de décrochage. Cette subjectivation qui lui est proposée, c'est un des rares moments où il se trouve en surplomb sujet de sa scolarité. C'est le premier moment où un retour en scolarité réussi est possible, d'avoir fait des décrocheurs les analyseurs des insuffisances de l'offre scolaire. Le premier colloque que nous avons organisé à Lyon en 1998 avait comme intitulé « Le décrochage scolaire ». Le deuxième colloque que nous avons organisé à Grenoble en 2003 avait comme intitulé « Le raccrochage scolaire ». Voilà, je vais m'arrêter en signalant quand même, par rapport à ce qui est écrit derrière moi, que le CLEP fonctionne comme une action recherche. Nous avons la chance de travailler avec Jean-Yves Rochex, nous avons la chance de travailler avec Guy Berger, nous avons la chance de travailler avec Dominique Glassman, il y a des chercheurs qui nous accompagnent depuis le début, depuis les années 96. Le CLEP est né en 2000, mais depuis 96, on travaille avec ces chercheurs qui viennent nous aider à descendre de vélo pour nous regarder pédaler. Je crois que ça serait drôlement bien qu'on se rende compte que les élèves, même ceux qui étaient mal partis, peuvent réussir dans l'école. Mais d'abord, il y a deux conditions à réaliser pour que la démocratisation du savoir soit possible. C'est qu'on n'oublie pas qu'enseigner est un métier et qu'il faut y être formé. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes qui rentrent à l'école sont des jeunes avant d'être des élèves. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de proposer un dialogue entre nos intervenants et la salle, je voudrais céder la parole à la ronde des obstinés. Je ne sais pas si vous souhaitez nous rejoindre à l'estrade ou s'il y a des micros qui... Et puis ensuite, nous prendrons quelques questions pour les intervenants.
Bonjour. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, sur la formation et sur le besoin de démocratie et le maintien d'une éducation de qualité. Donc, nous, on est la ronde des obstinés. Donc, c'est un outil citoyen, c'est un outil visible qui est utilisé à l'heure actuelle par les universités, par les professeurs des écoles, par les gens de l'UFM, pour montrer un petit peu notre mécontentement vis-à-vis des réformes. Alors, cette ronde des obstinés tourne depuis 3 semaines à Grenoble, et le but, c'est d'interpeller les citoyens sur la situation de l'éducation. Plus particulièrement, on aimerait interpeller les citoyens sur les dangers des réformes qui vont être mis en place à l'heure actuelle avec le gouvernement, qui ont quand même pour but qui ne résout pas les inégalités, pardon, Et le but, c'est d'interpeller pour dire qu'on parle d'inégalité à l'heure actuelle, mais que les réformes vont les accroître. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous considérons que la manière dont sont imposés les projets du ministre Darcos et Pécresse constitue un déni de démocratie et que le contenu est dangereux pour l'idéal des valeurs démocratiques. En effet, si les réformes de l'éducation passent demain, ce sont des étudiants qui souhaitent devenir enseignants qui paieront leur formation plus cher pour devenir des enseignants moins bien formés et plus fragiles. Aujourd'hui, les futurs profs ont un stage d'une année rémunéré par l'État. Demain, nos enfants auront des enseignants qui ne bénéficieront plus d'une mise en situation réelle pour apprendre leur métier. Je suis professeur des écoles stagiaires à l'heure actuelle. Je bénéficie d'une formation tiers du temps en classe, deux tiers du temps à l'UFM, avec des formateurs qui m'apprennent des outils pédagogiques. Et je le vis cette année, je pense que c'était important d'avoir cette formation vis-à-vis des élèves. On parlait tout à l'heure que 20% des élèves sont en grande difficulté. Alors je pose la question, est-ce que c'est en formant moins bien les enseignants, c'est en supprimant les RAZ qu'on va mieux former les élèves et les futurs citoyens? Plus généralement, on s'achemine vers une explosion des droits d'inscription pour tous les étudiants. Combien de familles pourront payer 6 000 euros par an pour accéder à l'université, sans parler de l'augmentation du coût du logement pour les étudiants? On parle des étudiants, on parle de la formation des enseignants, mais on voit bien que cette logique aussi touche l'université et les enseignants-chercheurs. Les conditions d'études des étudiants seront dégradées. On voit bien que c'est la même logique qui est à l'œuvre dans les universités. Des ressources financières en moins, des suppressions de postes, des enseignants-chercheurs qui feront de moins en moins de recherches et qui ne pourront pas faire bénéficier leurs étudiants des dernières innovations de la recherche. Donc en fait, c'est cette idée aussi de qu'est-ce qu'on veut de la recherche, ce qui est le débat à l'heure actuelle, quelle démocratisation du savoir. Ce qui restera à la recherche sera de plus en plus piloté par des logiques ou des intérêts privés. En l'absence de financement public, croyez-vous vraiment qu'un fabricant de téléphones portables acceptera de financer des recherches sur la nocivité des ondes électromagnétiques? On voit que c'est le débat à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc aujourd'hui, nous sommes face à un choix qui engage l'avenir des générations futures. Soit nous laissons libre cours à la logique financière actuelle, soit nous choisissons de défendre l'égal accès de tous à l'éducation, notre bien commun. On parlait tout à l'heure, Marie Durubella parlait de quelle éducation. C'est un peu cette question-là aussi que soulève la ronde des obstinés, que soulève le mouvement universitaire, le mouvement dans les UFM. Quelle éducation? Et on pense, comme on le fait avec la ronde des obstinés, que cette question est populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle appartient à tous les citoyens, et nous devons en débattre, en parler. Enfin, j'aimerais terminer par ce qu'a dit Claude Lefort hier dans sa conférence. Il concluait un petit peu sa conférence en disant que, à l'heure actuelle, on est dans une perte de conflit et c'est un véritable danger. Il parlait d'effritement des affrontements. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un conflit, il y a un vrai débat qui passe par un dialogue, par une prise de conscience. Il disait aussi qu'on est dans une société qui, à l'heure actuelle, se laisse modeler. Est-ce qu'on veut se laisser modeler par les réformes du gouvernement? Nous, on pense que non, et ça passe par un débat, par un dialogue, par une ronde des obstinés. Merci.
Merci. Merci. Alors, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre les questions de la salle, à nos 5 intervenants. Donc, n'hésitez pas, il y a des micros qui circulent. Monsieur?
Je voudrais d'abord signaler que vous pouvez retrouver M. Roger Establé au Café des Auteurs à 18h30 tout à l'heure.
Merci. Donc, merci de donner le micro à monsieur.
Noël Perrault, j'ai consacré une grande partie de ma carrière universitaire aux problèmes d'éducation permanente, aux problèmes de promotion sociale, ainsi que à la mise en place de l'apprentissage d'enseignement supérieur. Alors, je suis un peu étonné, enfin, qu'à demi-étonné d'ailleurs, que dans ce thème éducation, on n'ait traité que de formation initiale et qu'à aucun moment on ne se soit interrogé sur ces problèmes d'éducation et formation tout au long de la vie. Et ce, pour deux raisons. Cela m'aurait semblé important. Parce que, historiquement, C'est dès 1830, avec de jeunes polytechniciens, créant l'association polytechnique pour aller vers le peuple avec lequel ils ont fraternisé sur les barricades, l'éducation dite populaire, l'éducation et la formation tout au long de la vie, a joué un rôle très important, à travers les associations diverses, pour le développement de la démocratie. Et ça continue aujourd'hui. Et on est au cœur de ce débat-là. Et puis deuxièmement, quelles qu'en soient les limites, en matière d'acquisition, en matière de renouvellement des connaissances, et surtout en matière, je n'ai pas peur d'employer ce terme, même s'il est quelque peu aujourd'hui délaissé, en matière de promotion sociale, eh bien, il y a beaucoup à faire. Et c'est ce système parallèle au système de formation initiale qui continue à jouer un rôle important dans ce domaine. Je vais faire une simple remarque à propos du coût de l'enseignement. Lorsque vous avez affaire, dans une formation dite initiale, à des étudiants orage, comme je les appelle, et à des étudiants de formation initiale. Lorsque les étudiants orage indiquent à leurs collègues ce que coûtent les droits d'inscription pour eux pour suivre cette formation à l'université, les autres sont babas, dans la mesure où ils disent « Ah bon, ça coûte ?» Eux, ils ne s'étaient jamais posé la question, alors qu'ils sont au niveau poste, au niveau bac plus 5 et autres, parce qu'on ne leur avait jamais dit combien ils devaient à la nation à travers ces études supérieures gratuites. Et je dois dire que l'argument de Roger Stablé, que j'aime bien par ailleurs, mais son argument disant « la droite a toujours dit qu'il fallait faire payer, c'est la droite qui l'a dit », moi je pense que le système de gratuité dans l'enseignement supérieur est profondément inégalitaire. C'est véritablement l'ensemble des populations. Ce n'est pas l'impôt sur la fortune ou sur le revenu qui paye ça. C'est le chariot de la ménagère. Et le chariot de la ménagère, lorsqu'on va samedi au Carrefour à Fontaine, on voit bien qui le remplit surtout. Et eux, ils payent autant que les autres. Et il y a des systèmes, moi je crois qu'on doit revoir cette question. Voilà ce que je voulais dire. Puis vous savez, on n'a pas parlé très peu du numerus clausus, par exemple. On n'a pas parlé, si incidemment, ces étudiants qui viennent gratuitement pour voir, pour faire, combien on en voit, une ou deux années de reniflage à l'université. Ça coûte à la nation, puis il y a peut-être d'autres moyens de reniflage que celui-là.
Roger Stablet, vous pouvez apporter quelques mots de réponse et puis on prendra la question de monsieur là-bas, je vous en prie.
Je crois qu'on a... Sur la formation permanente, bon, bien entendu, c'est un élément absolument essentiel de la formation tout court. Hein. On a eu beaucoup de mal pour faire valoir des certifications. Il faut reconnaître que la validation des acquis de l'expérience a été mise en place par Lionel Jospin. Ça a été une bonne chose. Il y a eu quelques progrès faits là-dessus. On voit trop souvent que la formation permanente est dans le droit fil de la formation initiale. C'est ce que montre le CIREC. C'est souvent, c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça arrive souvent que les bénéficiaires de formation permanente soient déjà une formation initiale forte. Bon, ça c'est le problème des entreprises, mais bien sûr que la formation permanente, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi j'ai eu l'expérience d'avoir des étudiants, je me suis bagarré pour qu'on puisse considérer qu'un cours de sociologie pouvait être un cours de sociologie d'enquête, pouvait faire partie d'une formation permanente auprès de l'entreprise qui était en tare. Et on a gagné. Et non seulement nous avons gagné pour que cette formation soit payée, mais nous avons gagné en plus le fait que mes étudiants en sociologie qui apprenaient l'enquête en faisant une enquête avaient le concours de quelqu'un qui avait une expérience professionnelle. C'était un enrichissement des deux. En ce qui concerne les étudiants qui, si vous voulez, les gens qui glandent dans les études, vous savez, l'enseignant qui m'a remplacé dans mon travail d'apprentissage de l'enquête par l'enquête, Nasser Dendani, a fait, et on vient de la regarder, une enquête dans laquelle on regarde le travail que font les étudiants aujourd'hui. Eh bien, par rapport à ce que nous faisions, nous, quand nous étions étudiants, c'est absolument énorme. On voit que le taux de la désinvolture à la bourse, comme que décrivait Bourdieu et Passeron, comme le monopole des héritiers, ça a franchement beaucoup disparu. Il y a encore quelques désinvoltes. Bon, on en voit quelques-uns qui nous racontent que quand un prof est pas là, ils vont au café. Mais il n'y en a pas tellement. Hein. Vous verrez quand ce travail sera publié, qui porte sur 1500 étudiants dont il a des quatre universités d'Aix-Marseille, de la médecine aux IUT, tout est compris. Eh bien, on voit que ça a pris le glandouillage de l'étudiant distingué en a pris un vieux coup parce que les études, c'est devenu sérieux, peut-être trop, hein, peut-être trop sérieux.
Alors, il y avait une question de monsieur, je crois, là-bas.
Allô ? Oui, oui. Je m'attendais un peu à autre chose ce matin. Notre réunion a pourtant bien commencé. Les paroles introductives de l'animateur situaient bien les enjeux. Apprendre au peuple la démocratie. Bon, qu'est-ce qu'on entend par peuple, c'est à discuter. Mais apprendre au peuple la démocratie, à se servir à bon escient, si je comprends bien, des pouvoirs qui sont les siens. Ce que j'ai entendu, ce sont des considérations sur les systèmes d'enseignement tels qu'ils vont, plus ou moins bien, plus ou moins mal. Beaucoup de choses sont à lire dans la presse et dans les discours de ces dernières années. Ce que vous avez inscrit dans un champ puissant d'évidence, dont témoigne apparemment le titre de la rencontre éducation et recherche, quelle démocratisation du savoir. Mais de quel savoir s'agit-il? Est-ce que les savoirs de notre époque, est-ce que les savoirs produits par nos institutions d'enseignement, est-ce que les savoirs produits par les enseignants, notamment du supérieur, est-ce que ces savoirs sont ceux dont nous avons besoin pour faire vivre nos démocraties et surtout pour les réinventer, en France par exemple ou en Europe. Et que deviennent les pratiques? Est-ce que on peut faire vivre des citoyens, on peut faire vivre des démocraties sans des pratiques? Ce qu'on ne dit jamais dans ce genre de considération sur les systèmes d'enseignement, c'est que l'enseignement éduque en même temps. Chez nous, ça s'appelle en France l'éducation nationale. L'éducation nationale. Or, souvent, il est sous-entendu que dans l'éducation, on enseigne et que l'éducation, ce n'est pas le métier des enseignants. Or, nous savons très bien que les institutions, les emprises qu'exerce cette institution pendant une grande partie de notre vie d'enfants et de jeunes, que ces emprises, que les enseignants le veuillent ou non, éduquent, c'est-à-dire qu'elles entraînent chaque individu à des pratiques quotidiennes, multi-annuelles, à des pratiques qui ensuite s'exprimeront dans l'âge adulte d'une manière ou d'une autre. Or, ces pratiques inculquées par les institutions et par les enseignants, y compris par les enseignants qui ne veulent pas éduquer parce que ce n'est pas leur métier, or, ces pratiques dans les classes, dans les groupes d'élèves, dans les cours de récréation, dans le rythme scolaire, avec les vacances et avec les arrêts, dans le comportement des adultes qui entourent l'enfant pendant des années, dans les écoles et les universités, quelles pratiques et quels savoirs avons-nous, de quelles pratiques et de quels savoirs avons-nous besoin pour faire vivre les démocraties?
Merci, monsieur. En fait, on a plus beaucoup de temps, on va prendre encore une ou deux questions. Et on a beau... On prend une ou deux questions et puis peut-être les intervenants voudront y répondre. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on pourrait les prendre. On pourra les prendre toutes.
Oui, j'allais en parler du génie électrique, justement, si une femme pouvait parler de génie électrique.
Je peux y aller ? Alors, on va prendre la question de madame.
Oui, donc moi j'avais deux choses. En fait, j'ai deux points sur lesquels je voulais intervenir. Le premier, c'était, première remarque, on oppose en général élitisme et démocratisation. Or, il me semble que l'ascenseur social n'a jamais aussi bien marché qu'à l'époque où l'école primaire, puis l'école secondaire, puis l'université étaient effectivement élitistes, au sens effectivement sélectif, mais également avaient une ambition de quantité et de qualité énorme. Donc je pense que l'opposé par principe est une mauvaise politique, est une mauvaise façon de poser le problème. Deuxième point, je parlais de génie électrique, ça m'amusait un petit peu parce que c'était ce que, dont je voulais parler. On dit les classes préparatoires coûtent cher à la société, certes. On n'a pas parlé des IUT qui coûtent très cher à la société, des IUT et de l'enseignement technologique qu'on a tendance trop maladroitement à confondre avec l'enseignement professionnel. Or, cet enseignement technologique suivi de l'IUT est un enseignement qui coûte cher globalement, effectivement. Si on regarde, ça coûte très très cher. Mais en réalité, c'est un bénéfice énorme et pour les classes populaires qui s'y retrouvent et qui gagnent un statut social qu'autrement ils n'auraient jamais eu, car là, ils ne sont pas sélectionnés sur la culture traditionnelle française, le grec et le latin. On s'en fiche complètement, là. Là, on se demande que ce soit des gens intelligents, scientifiques, qui vont apporter quelque chose au pays, efficaces. Ils font des études à bac plus 2, maintenant bac plus 3. Les écoles d'ingénieurs les recrutent de plus en plus. On est en train de tuer l'enseignement technologique, parce que ça coûte cher, justement. Et que, alors que là, c'est l'enseignement le plus, pour l'instant, en France en tout cas, dont on devrait s'inspirer, c'est l'enseignement le plus performant. Aucun jeune sortant d'un enseignement technologique, industriel j'entends, hein, industriel, se retrouve en situation de chômage ou d'impossibilité de faire des études. Et de surcroît, ces études vont de plus en plus loin. Donc c'est un enseignement qu'il faut valoriser et qu'il faut soutenir. Et pour l'instant, personne n'en parle, on le confond avec le BEP. Mais c'est une absurdité, et j'insiste. L'enseignement technologique a été la gloire, je considère la gloire de l'éducation nationale en France dans les années 70. On est en train de le tuer, personne n'en parle et ça me révolte.
Alors je crois que Éric Morin voulait répondre, ou Bertrand Montubert, je crois que les deux souhaitaient répondre.
Sur l'enseignement technologique, c'est vrai que c'est une réussite. D'ailleurs, la démocratisation en France, ça a été surtout via l'enseignement technologique, quand on y regarde de près. Sur le rapport entre sélection et mobilité sociale, ça, je pense que c'est une idée totalement reçue et maintenant, dont on a vraiment beaucoup d'éléments pour dire qu'elle est totalement fausse, que de dire que les systèmes les plus sélectifs sont les plus favorables à la mobilité sociale. Si vous faites des comparaisons internationales aujourd'hui, dans les années 2000 ou dans les années 90, les systèmes qui ont gardé, qui ne sont pas passés au collège unique ou qui ont gardé les formes les plus sélectives d'enseignement secondaire sont également ceux où le lien entre origine sociale et destinée scolaire sont les plus forts, donc ceux où la mobilité sociale est la plus faible. Et quand vous regardez tous les pays où il est possible de regarder au fil du temps ce qu'a signifié pour ces pays de passer d'un système élitiste, comme il était à peu près partout, c'était à peu près partout en place dans l'après-guerre, à un système collège unique avec toutes les versions possibles qu'il y a eu en Occident, à chaque fois vous vous apercevez précisément que les principaux bénéficiaires de ces œuvres de démocratisation ont été les fameux doués des classes populaires qui étaient censés, qui sont mythifiés comme ayant été les grands bénéficiaires des systèmes sélectifs. À chaque fois, c'est eux qui précisément, eux ceux qui c'est-à-dire sont bons au tout début du système et qui en masse sont sélectionnés et sont évincés dans les systèmes sélectifs, ce sont eux qui en priorité ont bénéficié de ces œuvres de démocratisation et qu'en revanche, contrairement à nouveau à une idée reçue, ceux qui ont souffert, parce qu'il y en a qui ont souffert de la nouvelle compétition qu'instaure le passage d'un système élitiste mathusien, c'est les enfants des classes favorisées. Ce sont eux qui se sont retrouvés mis en compétition justement dans ces nouveaux systèmes plus démocratiques avec des enfants de classe populaire. Et s'il y a des perdants, parce qu'il y en a dans ces mouvements-là, ce n'est pas les fameux doués des classes populaires qu'on arrivait à sauver avec nos sanctuaires. Ce n'est pas du tout eux. C'est les enfants qui, jusqu'alors, avaient un accès totalement privilégié à l'enseignement d'élite.
Alors, quelques mots de Bertrand Montubert, puis on prendra la question de madame.
Oui, d'abord juste pour dire que le coût des étudiants en IUT est sensiblement supérieur à celui des étudiants à l'université, mais nettement inférieur à celui des étudiants en classe préparatoire ou en BTS. Donc, ce n'est pas du simple au double. Non, non, il y a à peu près 1 1500 euros d'écart, ce n'est pas énorme. Ah bah, non, mais attention, si on parle des IUT, on ne parle pas des BTS. Les IUT et les BTS n'ont pas du tout le même coût de formation. C'est pas non plus la même classe populaire, c'est différent. Il y en a qui sont dans les universités, d'autres dans les lycées. Donc voilà, je veux dire. Non, non, mais. Ok, c'est populaire, mais ce n'est pas la même chose. Je dis bien les IUT. Non, il faut faire attention parce que. Après, on véhicule des idées qui peuvent être fausses. Les IUT ont effectivement une réussite avec malgré tout un investissement, un coût par étudiant qui est relativement faible, et nettement plus faible d'ailleurs que dans les BTS. Donc voilà, il faut quand même le prendre en compte. Ensuite, je voulais juste dire deux choses. La première, c'est que oui, bien sûr, il y a une frustration très forte sur le fait qu'on n'ait pas parlé de telle chose, et je pense qu'autour de cette table, on a tous cette frustration-là aussi. Donc, il ne faut pas dire, voilà, on n'a pas parlé de plein de choses. En une heure et demie, malheureusement, on ne peut pas le faire. Mais je voudrais rebondir quand même sur l'intervention du représentant, si j'ose dire, de la ronde des obstinés. Pour parler quand même un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, en termes de réforme et, je crois, de bataille idéologique. On est sans doute dans le cadre d'une bataille idéologique extrêmement forte qui est conduite par le pouvoir à l'encontre du savoir. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, au-delà de ce qui peut apparaître comme des échecs à la mobilisation exceptionnelle qui a pu y avoir aussi bien dans l'éducation que dans l'enseignement supérieur. Bon, c'est pas des échecs complets, mais ce le sont en partie. Je crois qu'il faut aussi quand même lire derrière justement l'enjeu de la bataille culturelle qui est menée. Le gouvernement a essayé d'entraîner toute la société dans l'idée que ce qui était important, c'était de mettre les individus en compétition les uns avec les autres, et c'est qu'à partir de là qu'on arriverait à tirer l'ensemble vers le haut. Et il y a une réaction qui a été justement de dire non, ce ne sont pas les valeurs derrière lesquelles nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons derrière des valeurs de coopération, derrière des valeurs de collégialité, et c'est celles-ci que nous voulons mettre en avant. Et donc, je crois que ce qu'il faut absolument voir, c'est le fait que, alors que Valérie Pécresse croyait, il y a quelques mois, avoir gagné une bataille idéologique, eh bien, en réalité, elle ne l'a pas gagnée. Il reste à construire un projet politique autour de ces valeurs fondamentales qui sont affirmées là. Et c'est le rôle des partis politiques, et moi, je m'y emploie, mon modèle à ce niveau, et j'espère qu'on se retrouvera collectivement pour en débattre, pour pouvoir ensuite le mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut peut-être encore souligner, ce sera mon dernier mot, puisqu'on parle de démocratie, c'est la gravité de la situation dans le fait que la politique de Nicolas Sarkozy consiste à mépriser toutes les instances républicaines qui ont été mises en place qui permettent de former le dialogue social, de s'asseoir sur toutes ces instances qui vont donner des avis, qui sont des instances souvent paritaires, par exemple, où il va y avoir des représentants de l'administration, des représentants des syndicats et donc des salariés. C'est-à-dire de dire, à partir du moment où j'ai été élu, donc là, référence à une démocratie instantanée du 6 mai 2007, à partir du moment où j'ai été élu, j'ai la légitimité à faire tout ce que je veux et je m'assieds sur toutes les structures de dialogue social. Le résultat, c'est une révolte profonde. C'est un sentiment que pour pouvoir se faire entendre, il faudra avoir des actions de plus en plus radicales. C'est sans doute ce que cherche le gouvernement, mais c'est une crise démocratique extrêmement forte qui est en train de se creuser et contre laquelle nous devons lutter. Et je rends vraiment hommage à tous ceux qui ont des actions comme la ronde des obstinés, comme les cours hors les murs, etc., qui sont des actions justement qui évitent la radicalisation, qui sont des actions qui essayent de créer du lien avec la société. Et je crois qu'elles ont un avenir important pour essayer de nous faire regagner au niveau de la démocratie.
Merci. Je suis censé rendre la salle. Je suis censé rendre la salle à 11h, donc on va prendre deux dernières questions de madame là-bas. Et monsieur là-bas, je vous demande d'être vraiment très bref, sinon on ne pourra même pas vous répondre, je suis désolée. Je vous en prie, madame.
Bonjour, Natacha Wilker, ici en tant que parent d'élève au collège. En fait, ce que je voudrais dire, deux choses. Première chose, en fait, ça suit très bien, parce qu'il y a aussi le collectif École en danger, et ils organisent, ce collectif, un pique-nique revendicatif au bord de l'eau, Parc d'Île d'Amour à Grenoble, 17 mai, le dimanche 17 mai à midi. Donc, n'hésitez pas de joindre à ça. L'autre chose que je voudrais parler, en fait, ça suit quelque chose que M. Morin a dit entre les différences entre le primaire et le collège. En tant que parent d'élève, ce que je voudrais constater, qu'il y a deux choses surtout. D'abord, il y a beaucoup moins de contacts positifs entre les parents et le collège qu'entre les parents et les primaires, les instituts et les enseignants. Et aussi entre les parents, entre nous-mêmes. Au primaire, on se rencontre à l'extérieur de l'école. Au collège, nous sommes tous, si on est là, c'est en voiture, voilà. Et la plupart, nous ne sommes pas là, à l'extérieur. L'autre chose, c'est au sujet des problèmes de décrochage au collège. À mon avis, actuellement, il n'y a pas un système vraiment d'aider les élèves en train de décrocher. Il faut trouver une façon de sanctions éducatives. À l'heure actuelle, les sanctions, finalement, pour les élèves qui vraiment décrochent, c'est les renvois de jours, une semaine, même le renvoi définitif. Et ça, ce n'est pas une sanction éducative. En fait, surtout, c'est ridicule pour ceux qui sont absents, pour ceux qui ont l'art, ils ont cette sanction pour faute de travail. Et ils excluent ces élèves de l'école, de collège. Mais c'est presque la seule sanction à ce moment-là qui reste.
Donc, merci, madame. Voilà. Merci. Je donne le dernier mot à monsieur.
Oui, bonjour, Pierre-Frédéric du syndicat du CNRS. Nous, on était particulièrement intéressés de venir pour parler justement du savoir. Ça nous concerne beaucoup. Et on voulait rappeler quelque chose. D'abord, c'est que la connaissance est quand même le bien le plus précieux que les hommes puissent acquérir. C'est quand même le véritable socle de la raison. Elle nous permet de surmonter nos certitudes ainsi que de nous ouvrir aux autres. La connaissance est le principal ingrédient de toute innovation technologique aussi. Toutefois, aujourd'hui, au niveau du CNRS, nous, on voulait dire, par l'intermédiaire de l'ANR, des pôles de compétitivité, cette connaissance est lourdement menacée. Je parle de la recherche fondamentale, qui est en grande partie faite par le CNRS. En effet, la connaissance ne se décrète pas, mais se découvre au prix d'acharnement et d'un entêtement de longue durée, ce qui n'est pas le cas avec une recherche à la carte sur des projets. Donc aujourd'hui, nous, on va disparaître au niveau d'opérateurs de recherche, on va devenir qu'une agence de moyens. Donc au niveau du savoir et de la démocratisation, est-ce que la démocratisation implique que le CNRS doit disparaître en tant qu'opérateur ?
Merci. Ensuite,
juste une dernière chose, excusez-moi. Une démocratie peut-elle laisser ainsi la production de connaissances se tarir au nom de la rentabilité à court terme ? Peut-elle se priver du principal élément d'émancipation politique, sociologique et philosophique ?
Voilà. Merci, monsieur. Nous nous séparons sur ces mots énergiques. Merci à tous. Merci aux intervenants. Je suis désolé de ne pas avoir pu prendre davantage de questions. Merci à tous.